Bienvenue pour une nouvelle émission, ravi de vous retrouver cette semaine. Nous allons parler d'éducation, nous allons parler de formation des jeunes à travers l'histoire du scoutisme. Une histoire qui est extrêmement intéressante parce que c'est un mouvement qui est né en Angleterre, qui s'est ensuite diffusé dans une grande partie de l'Europe, notamment en France, avec des présupposés intellectuels, des présupposés pédagogiques qui ont réussi à traverser les époques, à traverser les tempêtes également, et qui fait que le scoutisme existe toujours plus d'un siècle après sa création, non sans déchirure parfois, non sans interrogation sur le sens à donner à cette pédagogie, mais je trouvais qu'il était extrêmement intéressant d'évoquer cette question du scoutisme pour comprendre comment il s'est formé, développé et la place qu'il joue aujourd'hui en France et en Europe dans la formation d'une grande partie de la jeunesse. Alors pour évoquer le scoutisme, je reçois cette semaine Christophe Carichon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire et historien, vous avez consacré plusieurs ouvrages à l'histoire du scoutisme et vous publiez chez Arthège un ouvrage consacré à des figures scouts, grande figure du scoutisme, où vous présentez plusieurs figures françaises au cours du XXe siècle, nous y reviendrons. Mais dans cette émission, je voudrais m'attacher plutôt à l'histoire en général du scoutisme. D'abord, les raisons pour lesquelles il est né. Alors, on connaît Baden-Powell et ça se retrouve notamment dans l'uniforme, ce côté un peu militaire qui est peut-être ce qui est remarqué en premier. Alors, je précise d'ailleurs que moi-même, je n'ai jamais pratiqué le scoutisme, donc ce n'est pas une prédication pro bono, mais simplement de découvrir ce mouvement. Pourquoi est-ce que Baden-Powell a créé le scoutisme? Et lui, qui était un officier de l'armée anglaise, quel est le rapport entre son expérience militaire et ce mouvement de jeunesse qu'il a lancé?
Alors, Baden-Powell est en effet un officier de l'armée britannique de la grande époque des colonies. Il réussit un concours d'officier de cavalerie un peu par hasard. Il est envoyé aux Indes et puis c'est pas vraiment un officier de troupe, Baden-Powell, c'est un officier original qui fait du théâtre, qui fait des comédies, qui s'intéresse à la nature, qui s'intéresse aux autres peuples aussi, qui apprend les langues, qui fait du renseignement, beaucoup de renseignement. Et puis, alors qu'il est colonel lors de la guerre des Bourgs, il va se retrouver assiégé à la fin du 19e siècle dans la petite ville de Mafeking. Et là, pressé donc par les révoltés hollandais, français, allemands contre la couronne britannique, eh bien, il a l'idée d'utiliser les jeunes garçons de la garnison pour servir d'éclaireurs, scout en anglais. Et il va se rendre compte que ça fonctionne bien. De retour en Angleterre, il est considéré comme un héros national. Il devient général et l'histoire un peu mythologique aussi du scoutisme, que se promenant dans les rues de Londres, il se rend compte que beaucoup de jeunes sont désœuvrés, que le civisme aussi a perdu de son importance. Et il va mettre le fruit de ses expériences militaires par écrit, dans un ouvrage d'abord en feuilleton, Scouting for Boys. Et voyant le succès de ses publications, il va avoir l'idée d'emmener quelques garçons sur une île, dans le Dorset, l'île de Bruntsea, où là, il va leur apprendre des trucs d'éclaireur de son temps, auprès des Zoulous, auprès des Afrikaners aussi. Et la sauce va prendre, les enfants vont être enthousiasmés, vont se réunir en patrouille sous la conduite d'un adolescent un peu plus âgé, et c'est ainsi que le scoutisme démarre, d'une manière en fait assez spontanée et... donc dans cette cité de Londres. Et puis très vite, en effet, Baden-Powell va leur donner un uniforme, une tenue, enfin on dit uniforme dans le scoutisme, tout à fait inspiré de l'uniforme de la police sud-africaine, c'est-à-dire le chapeau à quatre bosses, le short assez long et puis une chemise, les manches retroussées. Ce qui pour l'époque, alors chez les Anglais ça passe bien, mais dans d'autres pays le fait de montrer ses jambes sera quand même moins bien compris. Voilà, donc pour le début, on est ici dans les années 1907, 1908, 1909.
Et comment est-ce qu'il arrive en France, ce scoutisme?
Par les missionnaires protestants, des missions YMCA. Il va arriver, semble-t-il d'abord à Nantes et la même année à Paris, avec le avec des pasteurs qui vont venant d'Angleterre vont s'intéresser à cette idée justement anglaise. Dans les années 1911, le scoutisme protestant donc est officiellement fondé, prenant le nom des éclaireurs unionistes de France. La même année sont fondés les éclaireurs de France, qui s'affirment neutres et non pas laïcs, en tout cas au début, donc vraiment la neutralité. Et puis quelques groupes catholiques vont être fondés aussi par des vicaires un peu, là encore, originaux, à Nice, au Creusot, à Paris. Mais la hiérarchie catholique est au début très méfiante vis-à-vis du scoutisme.
C'est ce que vous expliquez dans l'ouvrage, notamment que le père Sevin a été plaidé à Rome en 1924 pour qu'il ne soit pas condamné, parce qu'on s'était jugé trop protestant, justement, avec un risque d'indifférentisme religieux.
Alors, il y a plusieurs choses. Avant 1924, plusieurs évêques accusent le scoutisme d'être en effet protestant. C'est une idée protestante, c'est une idée maçonnique, c'est une idée naturaliste. Immoralité des couchages sous la tente aussi, et la guerre 14 arrive par là-dessus et le scoutisme est un peu oublié. C'est au sortir de la guerre 14 que les groupes catholiques vont se fédérer sous la conduite du père Sevin, du chanoine Cornette, d'Édouard de Macedo, Paul Cause, qui sont des noms assez connus. Alors là, on est à Paris. Mais en effet, le scoutisme va se retrouver opposé à ce qu'on appelait à l'époque une partie de l'Église, le mot c'était intégraliste. Émile Poula, évidemment, là-dessus. Et plusieurs évêques, mais aussi plusieurs religieux, dont les religieux de Saint-Vincent de Paul, qui avaient les patronages fermés, vont s'opposer à ce scoutisme pour d'autres raisons. On l'accuse d'être lié à la théosophie, théosophie qui est une espèce de syncrétisme religieux œcuménique de l'époque, interconfessionnaliste plutôt. Interconfessionnaliste, et un frère de Saint-Vincent de Paul, le révérend père Geoffroy, construit un rapport d'ailleurs très argumenté et tout à fait logique contre le scoutisme. Le rapport arrive par le biais de plusieurs cardinaux à Rome, on est là en effet en 1924. L'attaque est très grave et le révérend père Sevin, en effet, donc un jésuite fondateur des scouts de France, accompagné de celui qu'on appelle à l'époque le chef scout, qui est le chef laïc, donc le général Arthur de Salins, qui est le héros de la prise de Douaumont en 1916, vont aller plaider leur cause à Rome. Et Pie XI est à deux doigts vraiment de condamner le mouvement scout catholique. Et c'est vraiment le père Sevin qui va emporter le morceau en lui montrant en lui montrant d'abord que le mouvement n'est pas mauvais et qu'il peut être un mouvement apostolique, mais également en s'engageant à modifier ce qui peut choquer la doctrine catholique. Par exemple, le scout n'est pas le frère de tout autre scout, ainsi que le dit la loi, mais il est, selon le père Sevin, à la demande de Pie XI, le frère de tout autre scout catholique. Bon, c'est tout le problème de la fraternité, évidemment. Hein. Mais si le père Sevin ne s'était pas engagé à abandonner toute référence à l'indianisme, c'est-à-dire faire des jeux d'indiens, des totems à la place des noms de baptême, s'il ne s'était pas engagé à abandonner tout rapport avec les autres mouvements scouts, en tout cas dans ces années 20, le pape aurait condamné le scoutisme sans appel.
Et on a un scoutisme qui se diffuse aussi chez les protestants, puisque c'est eux qui l'ont importé, les israélites également.
Oui.
Donc c'est une méthode pédagogique qui convient à l'ensemble des mouvements religieux en France.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le scoutisme, en effet, les israélites arrivent au début des années 20, mais également les jeunes filles qui vont très tôt demander à elles aussi faire du scoutisme. Et il y aura aussi donc les guides de France catholiques, mais également la Fédération française des éclaireuses, qui regroupera en son sein jusqu'aux années 50 des éclaireuses protestantes, neutres et également israélites.
Et ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que c'est quelque chose de garçon. On est sous la tente, on est dehors, et donc il y aurait une sorte de séparation garçon-fille et que les filles feraient autre chose. Alors, vous montrez bien que dès le début, dès l'origine, elles sont introduites et elles font aussi ces activités champêtres dans les bois et ailleurs.
Voilà, exactement la même chose. Elles ne veulent pas de toute façon, et aujourd'hui encore. Mais il ne faudrait surtout pas leur dire ça, qu'elles font un scoutisme en effet plus cool. Elles veulent faire comme leurs grands frères. Et puis, elles veulent également camper dans la nature, elles veulent faire du feu, elles veulent faire des installations. La seule chose qui va changer entre les troupes scouts et les compagnies de guides, c'est évidemment la place de l'aumônier. Autant il est impératif que l'aumônier scout campe avec les garçons, dans une tente à part, à côté de la chapelle, généralement, qui a été construite en bois, autant il est formellement interdit. Alors, pour les aumôniers des garçons, c'est un indulte de 1922 qui permet plusieurs choses, en particulier de dire la messe dans les bois, et puis aussi aux prêtres d'être sur place avec les garçons. Mais pour les guides, il n'en est absolument pas question, et il faut évidemment, pour des raisons de morale, que le prêtre, l'aumônier guide, dorme dans un logement à côté quand il y a camp guide.
Sur le scoutisme également, est-ce qu'on a une sociologie du scout? Parce que Baden-Powell, à l'origine, voulait amener des garçons urbains vers la campagne. Est-ce qu'en France, dans les années 1920-1950, c'est plutôt un mouvement urbain ou plutôt un mouvement rural?
C'est un mouvement urbain sans aucun doute. Il y a quelques unités rurales, bien sûr, on dira toujours qu'il y a quelques unités rurales. Alors dans les années 20, c'est un mouvement urbain et sociologiquement, c'est un mouvement bourgeois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors après, plus le mouvement va grandir, évidemment, plus on va avoir des troupes populaires. Ici, par exemple, à Montmartre, ou dans ce qu'on n'appelle pas encore les quartiers, mais disons les banlieues. Donc on a des mouvements populaires, en effet. Mais dans les villes de province, c'est quand même plutôt dans le centre-ville, jusqu'aux années 50. Dans les années 50-60, il va y avoir un glissement. Le scoutisme est désormais un mouvement tout à fait reconnu. Donc il y aura des troupes dans des écoles professionnelles, il y aura des troupes dans des quartiers en effet plus difficiles. Et aujourd'hui encore, les Scouts d'Europe et les Scouts et Guides de France continuent à pousser leur apostolat dans les banlieues auprès d'enfants plus difficiles.
Alors, vous donnez quelques chiffres sur le nombre de scouts en France en 2021, qui est à peu près 150 000 adhérents, tout mouvement confondu. Premier mouvement, les scouts et guides de France, 88 000, guides et scouts d'Europe, 33 000, et puis les SUF, scouts unitaires de France, 30 000, et après, différents mouvements laïcs ou d'autres confessions, donc protestants, israélites, musulmans, là où ils sont à peu près 35 000 adhérents. Donc, aujourd'hui, un mouvement qui comprend un grand nombre d'enfants. D'où vient la scission du scoutisme? Enfin, ces trois grands mouvements, scout et guide, scout d'Europe, scout unitaire. À quel moment ça s'est fait, cette scission, et quelle en est la raison?
Alors d'abord, un retour sur les chiffres. Les chiffres, autant pouvaient être un peu transformé dans les années 60, 70, 80, autant aujourd'hui on peut être sûr des chiffres puisque tout ça est informatisé. Donc, alors ce qui peut changer, c'est le ratio entre les adultes et les enfants. Les scissions, ce sont les années 60, mais il faudrait peut-être revenir avant sur les années 40, c'est-à-dire que le scoutisme va fournir énormément d'officiers, de sous-officiers, de cadres dans l'armée et la marine, et l'armée de l'air, et beaucoup vont mourir au champ d'honneur en 1940, jusqu'en 1945. Beaucoup s'engagent dans la résistance, beaucoup sont déportés. Marcel Callot, par exemple, à Rennes. Agnès de Nanteuil, une jeune cheftaine résistante, aussi mort à Paray-le-Monial. Et c'est vrai que la guerre va changer, comme pour beaucoup de mouvements, comme pour la JOC, la GEC, la vision du monde que peuvent avoir les catholiques. Il faut, après 1945, redynamiser le scoutisme. Cela va être vrai pour la branche éclaireur, c'est-à-dire les adolescents, les garçons des Scouts de France, avec la proposition de Michel Menu qui lancera les Raiders. Et puis, dans les années 60, il y a une certaine lassitude, peut-être. Et les chefs des Scouts de France vont non pas proposer, comme l'avait fait Menu avec les Raiders, qui étaient un peu des Scouts commando, mais imposer une réforme qui va casser la patrouille en deux. La patrouille, c'est-à-dire les 7 ou 8 garçons ou filles avec un chef de patrouille de 16-17 ans et puis des petits jusqu'à 12 ans. Et l'idée des nouveaux chefs des Scouts de France, c'est de casser ça en deux, les pionniers et les rangers, d'un côté les 12-14 ans et de l'autre les 14-16 ans. Donc c'est d'abord véritablement une réforme tout à fait pédagogique qui a ses raisons et qui a aussi de bonnes raisons, qui va s'accompagner aussi d'un abandon quasi complet de l'uniforme, en tout cas l'uniforme traditionnel, foulard, béret, chapeau. Alors, il n'y avait plus beaucoup de chapeaux dans les années 60, mais le short pour une chemise rouge ou bleue ou jaune pour les plus petits. Et puis, des chefs vont ne, les anciens chefs d'abord vont pas se retrouver dans cette évolution, d'aucuns diront une révolution, et les parents non plus. Donc c'est ce qui va amener d'une part la création des guides des scouts d'Europe par des anciens chefs des scouts de France, et d'autre part, beaucoup plus tard, en 1971, la création des scouts unitaires de France. Unitaires, justement, parce qu'ils voulaient garder l'unité de la patrouille du 17-12 ans. Voilà. Et cela va avoir des conséquences assez dramatiques, puisque c'est l'explosion du beau scoutisme des années 50-60, et ça va également impliquer des conflits, des haines, assez terribles dans les provinces. J'en ai étudié plusieurs, entre jeunes, pas tant les jeunes ils sont heureux quand ils vont dans la nature, mais entre chefs. Sachant qu'en plus, le scoutisme est tourné vers la nature, le scoutisme traditionnel, alors que l'évolution des années 60 va tourner davantage les pionniers rangers vers la ville, vers le chantier, dans un esprit, dans l'esprit des années 60 et 70.
La question de la patrouille n'est pas anecdotique parce que c'est une question pédagogique forte. L'idée originelle, c'était les plus grands enseignent les plus jeunes et donc ils apprennent aussi à avoir des responsabilités. Et donc on est dans une pédagogie, on dirait, du haut vers le bas. Et en cassant ça, en fait, on passe à autre chose où chacun est avec les groupes d'âge et donc c'est plutôt une pédagogie horizontale où les gens apprennent par eux-mêmes.
C'est ça. Je vais vous raconter une anecdote très concrète d'une troupe de province. Une troupe bretonne que je connais bien puisque elle était la mienne à Quimper. Et lors d'un camp dans les années justement 63-64, les chefs de patrouille se conduisent comme des tyrans. Et les petits appellent ça le camp des CP tyrans. Donc tout simplement des gens mal encadrés par une maîtrise trop faible. Et à la rentrée, avec la proposition Pioneer Rangers, l'aumônier et les chefs décident de passer aux Pioneer Rangers. En effet, se disant, des grands qui encadrent des petits, ils prennent pour eux une autorité qui est presque dictatoriale, qui est mauvaise. Donc le système des patrouilles est arrivé à son bout, donc essayons autre chose. Et un jour, l'aumônier arrive dans la base, c'est l'ancien local des Raiders, et il voit là des garçons de 14-16 ans qui sont autour de la table et qui ne font rien. Et il leur demande « Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui samedi ?»« Mon père, nous n'avons rien fait. Des égaux plus des égaux égale zéro. Nous sommes là comme des cons. J'aurais été chef de patrouille. J'aurais commencé par une prière. J'aurais ensuite fait de la technique. J'aurais enseigné mes petits de 12-13 ans. Et j'aurais terminé par une prière. » Et là, le fait, c'est très difficile. Des égaux plus des égaux, en effet, égale zéro. Si vous mettez des enfants de 12 à 14 ans ensemble ou des enfants de 16 à 17 ans, eh bien, ils s'ennuient parce qu'il n'y a pas de direction pour les emmener quelque part. Attention, toutes les unités Pioneer Rangers n'ont pas été comme ça. Certains, bien encadrés par des bons chefs, ont pu faire de superbes réalisations. Mais en tout cas, voilà la parole de jeunes de cette époque-là, dans les années 63-64.
Ce qui est intéressant, c'est que ces questions éducatives du scoutisme, elles sont les mêmes qui traversent toute la société. On les retrouve à l'école, on les retrouve aussi dans le monde entrepreneurial. Donc finalement, on voit que le scoutisme a épousé ou épouse les interrogations de son temps, les essais, les succès, échecs. Enfin, c'est pas du tout un mouvement à part de la société.
Non, il épouse les modèles de son temps. Il épouse les modèles de son temps. Avant la guerre, c'est le chevalier. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le commando. Ensuite, c'est le cowboy avec les Pioneer Rangers. En effet, il épouse les modèles de son temps. Et puis en 68, avec les événements de mai 68, il est évident que la réforme Pioneer Rangers va trouver une partie de sa justification dans la critique de l'autorité, la mort du père, et puis la fin des estrades dans les lycées.
Au niveau européen, est-ce qu'on a aussi une diffusion du scoutisme dans d'autres pays ailleurs qu'en France ? Est-ce que ça a connu un peu les mêmes types d'évolution qu'en France ?
Exactement la même chose avec d'abord les pays les plus proches de l'Angleterre, du Royaume-Uni plutôt, et puis les pays plus protestants. Mais le scoutisme se développe en Italie, il se développe en Allemagne, en Russie. Et si je cite ces pays, c'est pour vous dire aussi évidemment que lorsque les régimes totalitaires se mettent en place dans tous ces pays-là, le scoutisme est la première cible. Mussolini va se battre avec le Papy 11, mais il va y arriver en créant donc les jeunesses fascistes et puis les Belgas, à supprimer le scoutisme. D'ailleurs, l'aumônier catholique italien deviendra le fondateur de Radio Vatican. Donc, se retrouvant au chômage du scoutisme, il aura quand même un bel apostolat. Mais Hitler aussi va supprimer le scoutisme, mais il va garder le même uniforme pour ses Hitlerjugend. C'est exactement la même chose, tout en sachant que là, on est sur des jeunesses politiques. Et puis, Lénine, dès 1917, va interdire aussi le scoutisme en Russie et dans tout le territoire de l'Empire des Tsars.
Est-ce qu'on a des rassemblements inter-scouts au niveau européen, ou est-ce qu'il y a une conscience, je dirais, scout européenne ?
Alors, il y a tout. Baden-Powell aimait bien les grands rassemblements qu'il appelait des jamborees. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est à Crystal Palace à Londres. Et puis ensuite, il va y en avoir régulièrement. Le plus important, peut-être, est celui qui a lieu après la Deuxième Guerre mondiale à Moisson, en France, dans la vallée de la Seine, qui va réunir des milliers et des milliers de scouts avec visite du président de la République, etc. Les scouts d'Europe, eux aussi, aiment ces grands rassemblements. Alors, je parle des scouts d'Europe fondés dans les années 1960. Et en effet, se réunissent avec les unités qui existent en Allemagne, qui existent en Roumanie, qui existent dans les autres pays d'Europe. Donc oui, mais pour moi, c'est pas ça le scoutisme. Le scoutisme, le grand rassemblement, c'est bien gentil et ça fait plaisir aux chefs. Je pense que le vrai scoutisme, surtout aujourd'hui, c'est la jeune cheftaine qui va emmener ses trois patrouilles, qu'elle a eu beaucoup de mal à recruter parce qu'il y a tellement de concurrence avec le sport, le cinéma et les soirées mondaines. Et elle va les emmener une à deux fois, à trois fois par mois pour les faire camper au fond des bois et se remettre en rapport avec la réalité. Et ensuite, ces filles, ou les garçons, pour les garçons, eh bien, elle les emmènera camper entre 15 jours et 3 semaines pendant l'été. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a non seulement, on a des jeunes qui vont apprendre le contact avec la nature, et puis, on a aussi des jeunes chefs de 20 ans, 19, 20 ans, qui s'engagent vraiment auprès des plus petits pour leur transmettre ce qu'eux-mêmes ont reçu.
Et c'est ce qui explique aussi en partie le fait que ce mouvement ait réussi à durer au bout d'un siècle. En dépit des changements, des goûts, il continue aussi à attirer beaucoup de jeunes.
Il attire les jeunes. Alors évidemment, 150 000 personnes, c'est pas grand-chose. 30 000 pour les scouts unitaires, 30 000 pour les scouts d'Europe. Mais il attire parce qu'il présente quelque chose de différent. Quand, vous voyez, hier, sur tout l'Ouest, il a flotté, il y a eu un vent à décorner les bœufs, et bien il y avait des troupes scouts, il y avait des compagnies guides qui étaient dehors. Alors on nous parle de vigilance orange, de vigilance rouge, les chefs et cheftaines sont formés, ils ont des BAFA, des BAFD, des camps écoles préparatoires, ils savent comment camper. Mais ils savent aussi que, en dépit d'une tornade, alors si c'était une tornade, un ouragan comme en 1987, évidemment qu'on ne sort pas, mais ils savent aussi que la pluie, ça mouille, mais ça ne fait pas fondre. Ils savent aussi qu'on peut manger parfois un peu trop brûlé. Ils savent, et c'est ça qui est important, c'est que ça leur apprend à se débrouiller, et ça les marque toute leur vie. La promesse qu'ils ont prononcée à 12 ans, qu'ils ont comprise peut-être à 14 ans, qu'ils ont appliquée à 17 ans, ça les marque dans leur vocation religieuse. Vous savez qu'il y a énormément de vocations religieuses et sacerdotales qui viennent du scoutisme. Je crois que si l'Église en France n'avait pas les vocations issues des trois grands mouvements catholiques, il y aurait quand même beaucoup moins de jeunes prêtres dans les séminaires. Et puis ça crée aussi de très beaux foyers chrétiens.
Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une œuvre de jeunesse, mais que ça a aussi des conséquences sociales, sur la société au sens propre, pour les adultes et aussi dans la formation humaine des différentes personnes.
Oui, je pense que les fondateurs dont je parle dans le livre voulaient changer la vie, changer la société, faire une nouvelle chevalerie. Je crois qu'à vue humaine, c'est un échec. En revanche, ils ont changé les garçons qui sont passés sous l'uniforme, les garçons et les filles, et ils en ont fait peut-être des chrétiens un peu différents, un peu, espérons, un peu meilleurs, et puis qui essayent d'appliquer dans leur foyer ou dans leur couvent, dans leur monastère, eh bien, cet idéal scout et puis aussi ce sourire scout qui, normalement, ne doit pas les quitter.
Vous évoquiez dans l'ouvrage, dans les grandes figures du scoutisme, qui est paru chez Arthège, le fait qu'il y a eu la création d'un camp pour former les cadres, former justement les jeunes qui allaient ensuite avoir la charge des plus jeunes. Ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, cette manière de former les cadres qui ensuite donc devront encadrer les plus jeunes.
On peut pas. Alors, le scoutisme, c'est bien beau, en effet, mais il faut se former, il faut lire. Avant de faire jouer les enfants dans la nature, il faut savoir ce qu'est le scoutisme, il faut connaître la pédagogie, il faut connaître la progression, et puis il faut avoir des idées pour les faire jouer. Pour inventer un grand jeu, c'est pas toujours facile pour une troupe de 24 ou 30 garçons. Il faut les faire rêver. Et pour les faire rêver, eh bien, il faut apprendre à faire rêver. Il faut apprendre aussi à faire des installations, à manger assis et pas par terre, à manger chaud et bien cuisiné. Vous voyez, tout ça, c'est vrai que ça s'apprend. Alors, c'est le père Sevin qui a eu cette idée, mais Baden-Powell avait la même chose en Angleterre, de créer un camp-école de scoutisme qui a été pendant longtemps le camp-école de Chamarande, dans l'Essonne, jusqu'à l'année de la mort du père Sevin, dans les années 50. Et puis ensuite, le camp-école des scouts de France est passé à Jambeville, où il est toujours, pas très loin, dans le Vexin. Et les scouts d'Europe, comme les scouts unitaires, organisent aussi des camps-écoles préparatoires qui sont obligatoires avant de prendre le commandement d'une unité, que ce soit une unité de petits, donc les Jeannettes, les Louvettes ou les Louveteaux, ou que ce soit une unité d'adolescents comme les scouts ou les guides. Voilà.
Merci beaucoup, Christophe Carichon, d'avoir évoqué cette histoire du scoutisme dont on se rend compte de la grande richesse et puis de la fécondité aussi sur plus d'un siècle. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Grande figure du scoutisme, qui est paru aux éditions Arthège. Et je vous propose de poursuivre ces échanges la semaine prochaine en évoquant quelques noms importants, célèbres, justement dans cette histoire du scoutisme. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.